Bienvenue à la Maison de Rousseau de la littérature. Vous savez que nous avons ouvert sur deux étages pour le moment le 31 janvier 2012. C'est tout récent, c'est donc la continuité de l'espace Rousseau qui se tenait dans ce premier étage et qui devient maintenant une maison de Rousseau et de la littérature. Et les publics varient. Ce soir, on a un public très différent d'autres soirs et nous essayons dans cette année test de faire venir à la fois le public de la littérature mais aussi des arts qui sans cesse évidemment dialoguent avec la littérature et il y aura aussi en janvier prochain la peinture en dialogue avec la littérature, etc. Voilà, nous sommes très très heureux et très honorés de recevoir Yann Maroussi ce soir. C'est une grande figure de la performance et du monde de la danse ici et à l'étranger. J'espère que Genève a conscience de la personnalité qu'elle a en Yann Maroussi parmi ces performeurs les plus marquants, les plus importants, les plus originaux. Anne Davier a accepté très aimablement de prendre un petit peu au vol la proposition que nous lui avons faite de dialoguer avec Yann Maroussi sur ce très beau livre qui vient de paraître, qui s'appelle Notes d'inemploi de la performance, dont on va avoir, je crois, quelques extraits en lecture, et ils vont dialoguer sur le livre, sur, je pense aussi, le travail de Yann Maroussi. Samedi prochain, on vous l'annoncera tout à l'heure de façon plus précise, il y aura une performance véritablement aussi à la Maison de Rousseau de la littérature. Je vous laisse maintenant la parole et je vous remercie infiniment.
Alors, bonsoir Yann, bonsoir vous tous. Donc, Sylviane le disait tout à l'heure, c'est une chance d'avoir ce performeur genevois parmi nous, et puis c'est aussi une chance et surtout un événement en fait qu'un livre sorte sur un performeur, un artiste issu de la danse, du milieu chorégraphique genevois. C'est très rare. Donc j'ai été très émue de recevoir ce livre il y a quelques jours, d'être parmi les premiers lecteurs aussi de ce livre qui a été inauguré, je crois, vendredi soir à Bayonne. C'est là qu'il a été édité, donc dans les éditions Les Arts qui bougent. Donc c'est assez émouvant finalement de défricher dans les premiers regards un livre comme celui-ci. Il est né d'une proposition, peut-être quelques mots juste pour le situer, d'une proposition de Christian Frédéric, qui est directeur du festival des performances qui s'appelle Les Rencontres Improbables. Et donc ce directeur a invité en novembre 2011 une des pièces récentes de Yann qui s'appelle Bain brisé, qui a été jouée à Bayonne. Et suite en fait à cette performance, il a eu envie il t'a proposé de traduire par les mots, par des notes, ton univers poétique, chorégraphique, afin que nous, public, lecteurs, puissions plonger dans cet espace du dedans auquel tu te réfères si souvent. Il écrit donc dans une préface, je lui ai demandé de livrer ses pensées sous la forme qu'il désire. Donc Yann, tu as choisi les notes. Donc c'est à la fois fragmentaire mais très linéaire. Il y en a en tout 106 notes qui sont écrites dans un ordre chronologique. Tu as écrit la première en novembre 2011, la dernière en mai 2012, et le livre est sorti donc il y a quelques jours en octobre 2012. Donc j'ai choisi, en fait, pour vous le faire découvrir et pour mener cet entretien, de me promener dans ce livre et de vous lire et d'interagir et de faire parler Yann sur 16 notes sur lesquelles je me suis arrêtée. C'est un choix subjectif, j'aurais pu m'arrêter sur d'autres notes, mais voilà, j'en ai choisi 16 qui, me semble-t-il, traduisent et permettent de rendre compte de l'univers et du travail de Yann Maroussi. Je vous propose dans un premier temps de suivre cet itinéraire, cette promenade que nous allons conduire Yann et moi. Et puis à la fin, évidemment, il y aura un temps pour que vous puissiez vous aussi dialoguer avec Yann, lui poser des questions. Et voilà, on prévoit ce moment à la fin de cette promenade, si vous le voulez bien. Notice 2. Journal de Bain brisé, Bayonne, Le Carré, Festival Rencontre Improbable, 15 novembre 2011. Je lis un extrait. Un seau de bris de verre de trop sur moi. un bout de verre qui bloque ma narine et qui me coupe. La sensation qu'il faudra aller vite et en même temps la conscience qu'il faudra au moins une demi-heure pour me dégager la tête avec ma seule main droite. Le sang coule parce que je dois aller vite. Il faut absolument que j'y arrive dans les temps. La pression de la masse physique du verre est très forte. Il s'agit quand même de 600 kilos. Un bris de verre me perce le plexus. Une peur se réveille. J'ai rarement peur, mais là, j'ai eu peur. Une peur. De mourir, sans doute. Quand je n'ai pas peur de mourir, je fais un avec le verre qui devient haut. J'étais sous le verre et pas avec le verre. C'est toute la différence. La peur a disparu quand j'ai pu enfin respirer normalement. Donc, bain brisé, juste quelques mots sur ce dispositif. Tu es dans une baignoire, hein, nue. On te verse 600 kg de bris de verre entièrement. Tu es totalement recouvert et la performance consiste finalement à te dégager, à sortir de ce bain. Ça prend 1h30 environ, ça peut être plus rapide, ça peut être plus lent aussi. Donc là, on voit ce qui m'a interpellée, d'ailleurs c'est dans tes premières notices, c'est la deuxième, tu parles immédiatement de la peur et de la mort. Tu as été en quelque sorte, on peut dire, saisie par ton dispositif spectaculaire. Tu t'es fait avoir, mais peut-être que tu sais que parfois tu dois te faire avoir pour que ça fonctionne et que ça se passe. Donc il y a une mise en danger réelle dans tes performances, dans ce que tu proposes, dans la plupart de tes performances, finalement, en tout cas les plus récentes. Même quand tout va bien, tu en ressors souvent avec des stigmates, avec des coupures, avec des blessures. Donc il y a toujours quand même quelque chose qui va un peu mal. Et là, tu as vraiment eu peur que ça se passe très très mal, tu as eu mal. Tu peux te remémorer cet instant-là?
Je m'en remémore parce que c'est extrêmement rare que j'ai peur pendant une performance en général. J'ai absolument pas peur. Sauf qu'il y a toujours des imprévus. J'essaye toujours de prévoir les imprévus, mais on en découvre toujours. Donc là, c'est vrai que si j'arrive à maîtriser la peur et tout en général, c'est grâce à la respiration. Si on m'enlève mon outil de gestion, et ben là, ça devient très difficile. Donc à partir du moment où j'avais beaucoup de mal à respirer, ça devenait très difficile. Et puis alors le fait d'avoir peur, c'est une chose. Après, il faut pas paniquer. Il faut, à partir du moment où on panique, c'est encore un autre stade de la peur. On peut très bien avoir peur sans avoir de manifestation de peur. Donc c'est une peur vraiment tombe dessus, et puis après il faut gérer cette peur.
Est-ce qu'il y a malgré tout des limites que tu sais que tu ne peux pas ou que tu ne dois pas franchir, hein, ou qu'il ne faut pas franchir?
800 kilos.
600 kilos, ça va.
600 kilos, c'est limite, c'est gérable.
Dans l'une de tes performances qui s'appelle Traversée, peut-être que tu peux expliquer le dispositif de Traversée.
Alors, Traversée, c'est une performance où, quand les gens rentrent dans la salle, ils voient une machine qui est un treuil d'un côté, et moi, nu, allongé, avec un câble en acier de l'autre. Donc, les gens rentrent, ils voient ça, et il n'y a aucune notice d'explication de mode d'emploi, de quoi que ce soit. Et au bout d'un moment, les gens, ils regardent et ils commencent à tourner la manivelle. Donc à m'étrangler. Et tout l'intérêt, je dirais, c'est le rapport entre les gens du public, entre eux, et le rapport avec moi. Qu'est-ce que ça provoque chez eux, soit du sadisme, soit vouloir me sauver, et puis entre eux c'est souvent assez brutal, les gens qui veulent tourner, les autres qui veulent empêcher, les gens qui veulent me sauver, les gens qui veulent me faire mal. Il y a des réels conflits dans ce dispositif. Donc là, j'ai pas peur dans.
Tu as confiance en fait au.
Ouais, moi j'ai
au public, au spectateur.
De manière générale, j'ai toujours.
C'est interactif, confiance. Hein. On peut.
De manière générale, j'ai toujours confiance. Mm-hmm. Parce que si j'avais pas confiance, je pourrais pas vraiment faire toutes ces performances. Mm-hmm.
Notice la note 24. Le mot limite est dur à effacer, surtout avec son propre corps. Les limites sont les esclaves de la peur. La peur est l'outil du pouvoir pour nous faire plier. Il faut d'abord intégrer l'illimité en soi pour le faire rayonner dans le corps. Le temps du corps est plus lent que le temps de l'esprit. La confiance est un état de rapprochement. Donc voilà encore une fois la peur. La confiance, tu en parles très bien, je voulais te demander quelques mots par rapport à ça, mais je te parlais de traversée, parce que je crois qu'une fois quand même il y a eu une limite qui a été franchie de la part, me semble-t-il, d'un spectateur qui a abusé sur la manivelle, on va dire, et donc tout de même, cette limite-là a été franchie, elle peut être franchie relativement souvent.
Disons, l'élément imprévu, c'est toujours le spectateur. Mmh. Le spectateur, c'est l'élément, c'est l'inconnu. Dans mes performances, tout était autorisé. Ça veut dire que j'essaye. Pourquoi je fais de la performance, entre autres, c'est surtout pour me dégager de la codification ou même. Du respect de l'œuvre. Donc le public, il peut intervenir, il peut faire ce qu'il veut dans les performances. Ce qu'il veut, ça veut dire que c'est un exercice de responsabilité et de liberté. L'exercice de la liberté, il est extrêmement difficile parce que c'est pas la liberté, c'est pas faire ce qu'on veut. Donc quelle est la limite de l'autoriser ou de ne pas l'autoriser? Donc les gens s'autorisent tout. À partir du moment où on leur dit tu peux tout faire, souvent le premier réflexe, ah bah alors on peut lui faire mal. Mm-hmm. Parce que comme je suis toujours dans une situation de vulnérabilité, donc la première chose que les gens pensent devant quelqu'un de vulnérable, c'est je vais lui faire mal. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je sens toujours. Je sens toujours ce déclic chez les gens qui se disent « Ah, on peut tout faire !»
Par ailleurs, dans une autre notice, tu racontes comment des gens dans Bain Brisé, je crois, comment le public est venu vers toi pour t'aider en fait à t'extraire de cette baignoire, pour te retirer les bris de verre qui pouvaient te blesser, et que là... Le réflexe du public n'était pas de te faire mal, mais de te protéger et de te...
Alors des fois, des fois apparaît, et après, voilà, d'un coup, ça. Le public dit « Ah, ben, on va le sauver mm-hmm. !»« Ah, il doit avoir mal, on va le sauver !» Mais des fois, c'est en voulant me sauver, on me fait mal, et des fois, en croyant me faire mal, on me fait rien du tout. Mm-hmm. Donc, c'est très particulier, ça, le jour où ils ont enlevé le verre. Alors, moi, j'ai laissé faire, mais en même temps... certains disent « Ah, mais ça a cassé la performance mm-hmm. !» Parce que c'est pas ça la performance. C'est, il doit se débrouiller tout seul, il doit sortir de la baignoire. Je dis non, c'est une possibilité comme
c'est une
autre.
C'est une possibilité.
C'est une possibilité. Mm-hmm. Donc là, le public a commencé à enlever le verre, À un moment donné, je les ai quand même fait comprendre que ça suffisait, mais...
Par le regard.
Mais moi, j'ai trouvé très intéressant. J'attendais depuis longtemps... le moment où le public allait vraiment intervenir, par exemple, de cette manière. J'aimerais pas que ça arrive tout le temps, mais je trouve que c'est intéressant que c'est arrivé, que ce soit arrivé.
Note 13. Notre besoin de justification est impossible à rassasier. Nous perdons notre temps. Noémie, la pièce.
C'est un clin d'œil pour toi, Noémie. J'ai beaucoup de pensées à toi quand j'ai écrit ça.
Donc là, on a une référence au titre du court essai de Stig Dagerman, écrivain suédois, qui a écrit un essai en 1952 qui s'appelle « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». Donc Yann, tu as changé le mot « consolation » par « justification ».« Notre besoin de justification est impossible à rassasier ». Et puis c'est aussi le texte lu dans le solo de Noémie Lapsesson, un solo qui s'appelle « Un instant », fait en 1992. Donc j'ai deux questions à te poser par rapport à ça. La première, c'est pourquoi est-ce que tu as préféré le mot « justification » plutôt que celui de « consolation » en fait. Est-ce que ce n'est pas...
C'est un clin d'œil évident, mais... J'avais surtout envie de parler de la justification, parce qu'on demande souvent aux artistes de se justifier, de faire ce qu'ils font. Mais finalement, c'est une question très encombrante et un peu stérile. Je ne sais pas, c'est comme se justifier de vivre. Je ne vois pas l'intérêt à se justifier pour tout, quoi. Donc voilà, c'était un peu un clin d'œil.
D'ailleurs, tu écris après « Nous perdons notre temps ».
Voilà.
Et puis, évidemment, la deuxième question, c'est, alors, quand on entend cette phrase « Notre besoin de justification est impossible à rassasier », évidemment, à Genève, immédiatement, résonne cette chorégraphie de Noémie Lapsesson, résonne aussi, en tout cas dans ma mémoire, le fait que tu as été danseur pour Noémie Lapsesson, entre autres. Et qu'à un moment donné, tu as créé tes propres travaux, tes propres performances. Et puis, il arrivait un instant où tu as, je ne sais pas si c'est juste de le dire ainsi, quitté la danse, ou en tout cas abordé de manière assez radicale le mouvement et la chorégraphie. Et voilà, en fait, aujourd'hui, quel est ton rapport avec cette danse-là, cette danse d'il y a plus de 20 ans, en fait, que tu pratiquais avec Noémie, par exemple? Et cette danse aujourd'hui que tu signes et que tu pratiques de manière différente, quel est ton rapport en fait à la danse, comme on l'entend quand on dit le mot danse?
Alors moi je sais pas, franchement je sais pas trop répondre de cette manière, mais ce que je pourrais dire c'est plutôt comment moi ce qui me gênait c'est plus c'est pas la danse en elle-même qui me gênait, c'était le rapport frontal dans le théâtre. Ça m'a toujours
la scène, le public, la frontière,
tout ça, ça me j'arrivais pas, je trouvais qu'il y avait trop de codes, trop de codifications, trop de contraintes, trop de, je me sentais pas libre finalement. Donc j'ai quand même essayé plusieurs années de continuer à faire des spectacles, de danse, tout ça. Mais il y avait quelque chose où j'étais pas convaincu par cette frontalité. Et j'étais pas convaincu non plus de déplacer ce que je faisais dans un autre espace. Parce que c'était déplacer le problème et finalement les codes on les emmenait avec nous et c'est exactement pareil. Plein de danseurs, ils allaient danser dans une galerie, ils disaient « Ah, je fais de la performance ». Je dis « Mais non, mais c'est toujours de la danse, tu ferais ça dans un théâtre, ce serait pareil ». Pour moi, ça ne changeait rien, fondamentalement pas. Donc, j'ai essayé de chercher une autre manière de présenter les choses, je sais pas, vivre les choses. Donc, la rupture, elle est dans ce cadre-là, de plus être dans la représentation, mais dans l'expérience, de partager une expérience. C'est aussi pour ça que, pour partager une expérience, je propose des choses fortes qui m'obligent à vivre cette chose et pas à la représenter. Donc voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Je pense que c'était un besoin de je sais pas, de tout exploser et de me retrouver seul, sans contrainte, sans code.
Sans code.
Sans code. Avec un public qui peut faire ce qu'il veut, rentrer, sortir. Voilà. Mais ça, c'est très personnel, hein. Ça n'engage que moi.
Oui, bien sûr. Note 97. Toute transe est un langage commun à toutes nos cultures. La transe immobile parle du mouvement intérieur. La transe immobile donne au silence de l'espace. Note 96. Tout provoque un mouvement du corps, la voix, toute forme vivante de relation à l'autre, la respiration, même le mouvement des étoiles, paraît-il, les émotions et la vibration du train qui passe au loin. Donc, en réponse un peu peut-être à cette question de tout à l'heure, aussi pour dire que, en ce qui concerne l'immobilité, on dit souvent de toi, on lit souvent que tu es un danseur, un interprète, un chorégraphe, un artiste, un performeur immobile. Voilà. D'ailleurs, tu écris plus loin dans ce livre, qui a également quelques images qui sont commentées de ta main, tu écris plus loin à propos de Cœur affamé, que tu as créé en 1996, Cœur affamé, que c'est ta première prestation immobile en 1996. Et tu notes « Naissance d'une non-danse sans savoir que la non-danse allait devenir un mouvement à part entière dans les années 90. » Qu'est-ce qui s'est passé en 1996, justement cette envie-là, ce désir-là dont tu parlais tout à l'heure?
Ça a été un vrai moment de rupture. Cœur affamé, c'était un vrai moment de...
Qu'est-ce qui se passait dans Cœur affamé? Tu peux peut-être juste très
Cœur
rapidement
affamé, c'était un texte en voix off qui dénonçait un peu la danse, les danseurs, le théâtre, moi-même dans ce milieu,
donc la dénonciation,
la guerre, c'était surtout de la dénonciation. Donc, mais c'était une étape importante, parce qu'après, la phase d'après, pour moi, importante, ça a été Bleu, mm-hmm. qui a été justement pas une dénonciation, mais une proposition. Mm-hmm. Donc, c'était Cœur affamé, c'était une immobilité dénonciatrice, et puis Bleu, c'était une immobilité qui propose. Mm-hmm.
Donc, Bleu, il y a d'ailleurs un extrait en bas dans la petite salle de Bleu Remix. C'est une performance pendant laquelle tu es immobile et nu, et tu fais, on écrivait ça souvent à l'époque, je me souviens, danser tes flux, hein. Donc transpiration, sueur, salive, urine et larmes, bleu de manière bleue, moyennant un travail chimique, médical précédant la performance qui transformait tous tes fluides en bleu. Et en bas, dans la salle vidéo, on peut voir cette performance en accéléré, donc qui a été filmée en plan fixe sur ton torse, où il y a 1h15 ou 1h10 de performance condensée en 10 minutes. Donc voilà, on voit plus rapidement cette métamorphose, finalement, de tes fluides en bleu. Donc il y a eu Cœur affamé, disais-tu, et ensuite Bleu, et une rupture entre l'une, qui était dans la dénonciation, et l'autre, où tu es passé du côté de la proposition.
Ben, c'est important de je veux dire,
c'est une maturité quand même aussi.
Mais oui, mais je veux dire, dénoncer, c'est que une phase. C'est toujours, même dans la vie, dénoncer, c'est une phase. Ensuite, il faut passer qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose. Donc, il faut. On ne peut pas passer sa vie à dénoncer. Je veux dire, sinon, on ne construit rien. Donc, voilà.
Et là, tu parles aussi dans cette note de transe, qui est un langage commun à toutes nos cultures, mais une transe immobile. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que cette transe immobile?
Je pense qu'il y a même à l'intérieur, dans la transe immobile, il y a pour moi, quelqu'un qui médite, il pratique une transe immobile. Quelqu'un qui fait du buto, il pratique une transe presque immobile. Mmh. Donc,
c'était cette agitation intérieure, en fait.
C'est pas une agitation, justement. C'est trouver l'énergie, justement, au-delà de la peur, au-delà de tout sentiment. Mm-hmm. Cette énergie de vie, finalement, pure. Je pense pense que c'est ça la transe, c'est trouver cette, cette énergie en dehors du social, en dehors de tout.
Mmh. L'énergie vitale.
Voilà, l'énergie vitale.
Note 14. Nommer est une prison dont l'homme a du mal à se défaire. Nommer l'innommable, c'est encore nommer. Même le silence nomme l'éternité. Donc là, tu parles des mots, du verbe, de la littérature, de l'écrit, du livre, de ce livre aussi, où tu fais cet exercice-là de mettre en mots de la poésie, du journal, des notes. Nommer est une prison. Est-ce que la poésie, pour toi, c'est aussi une forme de prison ?
Non, justement, c'est la poésie, c'est une manière de sortir des mots par les mots. Mm-hmm. Peut-être.
Tu écris de la poésie depuis longtemps ?
Depuis 30 ans, plus de 30 ans.
Dans des carnets, régulièrement ?
Régulièrement, quotidiennement.
Quotidiennement. Tu as commencé avec, bien avant Haïku Urbain, alors ? La pièce Haïku Urbain.
Ah oui, à écrire.
Ouais.
Je crois que mes premiers écrits, c'était en 82. Mm-hmm. Ouais, depuis 82, j'écris au quotidien. Mm-hmm.
Là, j'arrive en fait à la fin de ce livre où il y a la liste des spectacles et des performances, donc les titres de tes pièces. Ça m'intéresse parce que titrer, c'est aussi nommer, finalement. Donc avec le titre, on parle bien d'écriture aussi. Il y a 46 titres, 46 performances en 23 ans. Ça fait une moyenne de 2 par année, c'est beaucoup. Elles n'y sont pas toutes, tu m'as dit, mais les plus importantes sont là. Donc je vous en lis quelques-unes, en fait, quelques-uns de ces titres. Il y a « Je ne répondrai pas aux questions »,« Haïku urbain »,« Il faut manger les restes »,« Bleu provisoire », Morsure, traversée, blessure, soif, brisure, l'arbre au clou, cocoon. Donc c'est déjà des titres qui sonnent un peu comme des poèmes, un peu comme des haïkus. Alors on sait qu'un titre conditionne en quelque sorte, enfin conditionne une lecture, en tout cas la lecture d'une œuvre chorégraphique. C'est presque une vitrine finalement de ce spectacle, de cette performance qu'on va voir. C'est aussi la seule trace. Qui reste, hein. On dit que la danse, la performance a peu de documents. Alors bon, maintenant on a beaucoup de vidéos, mais finalement c'est souvent le titre qui reste dans les esprits quand on parle d'une pièce qu'on a vue ou qu'on a aimée. On se réfère souvent au titre. C'est un sujet qui m'intéresse aussi, cette manière de titrer les pièces chorégraphiques. Toi, comment est-ce que tu titres tes pièces, Yann ? Est-ce que tu le fais avant ? Est-ce que tu le fais pendant ? Est-ce que c'est un titre qui arrive après ? Qui est comme une évidence, qui sort d'un souffle ou qui s'accouche dans la douleur ?
Non, c'est j'ai toujours essayé de trouver des titres très concrets et qui collent vraiment à la performance. Donc, par exemple, morsure, ben, on me mord. Donc, c'est vraiment,
on te mord.
On me mord.
Qui te mord ?
Mais.
Qui te mord ?
Deux femmes.
Deux femmes. Deux femmes que tu as choisies ou
non,
deux femmes du public ?
Deux femmes que les organisateurs choisissent. Mm-hmm.
Elles te mordent fort.
Oui.
Et ce qui reste, en fait, c'est les traces de la morsure.
Les traces de la morsure
sur ton
et
corps.
Puis des bleus.
Et des bleus. Mm-hmm.
Mais pour revenir au titre, si j'avais eu le choix, je ne mettrais jamais de titre, je pense. C'est vraiment, ça c'est aussi une codification. Il faut nommer. Mais j'étais tellement. Enfin, des fois, je suis tellement. Enfin, je vois un titre et je veux voir le spectacle, je me dis, mais quel est le rapport avec lui ? Ça m'a toujours gêné le moment où je ne trouvais pas le rapport avec le titre. Mmh. Et. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai opté pour des titres très concrets. Mmh. Très.
Pragmatique, en fait.
Très pragmatique.
Efficace.
Ouais.
Simple.
Ouais. Mmh. Pas de fioritures. Souvent, c'est un mot et puis oui. Ça s'arrête là. Ouais.
Donc presque un haïku finalement de la proposition scénique qu'on va voir
c'est
après.
Même, c'est même un haïku d'haïku d'haïku. Ouais.
Dans les purs.
Ouais, dans les purs.
Note 33. Le corps totem. Dessins verticaux. Couleur de cicatrices. Donc on est aussi dans un espace au rez-de-chaussée où il y a des dessins de toi qui sont exposés, une cinquantaine à peu près. Donc il y a la pratique du poème, il y a aussi celle du dessin, depuis longtemps aussi je crois.
Mm-hmm. À
peu près la même époque, une trentaine d'années.
Et toujours été ensemble.
Vous avez sans doute eu le temps de le voir tout à l'heure. D'ailleurs, dans le livre, il y a aussi des dessins de Yann qui ont été faits pour le livre. On voit dans tous ces dessins-là un personnage, toujours le même, mais toujours différent. Une femme, en l'occurrence, un corps. C'est presque obsessionnel, ce personnage. Ça fait longtemps qu'il est là. Ouais.
Ça fait 30 ans qu'il est là, mais ça, c'est...
Obstiné, il y en a aussi.
Obstiné, ouais. Oui. Mais au début, il était asexué. C'était ni un homme ni une femme. Après, c'est devenu un homme. Après, c'est devenu une femme. Après, un couple. Après, il y a eu 1000 variations et c'est pas fini.
Mm-hmm. Donc un personnage avec des membres finalement qui se déroulent sans fin, qui s'allongent, sinueux.
Chaque année, il s'allonge.
Quelque chose un peu de l'ordre de l'insecte même, parfois.
De l'araignée.
De l'araignée, on te l'a souvent dit. Du papillon aussi, pour moi, j'en vois souvent. Et dans à peu près 20 de ces dessins, si ce n'est plus, il y a un disque rouge frappé par un coup de tampon. Là aussi, une obsession qui marque ce dessin comme ça.
C'est pas une obsession.
A posteriori, une fois qu'il est fait.
Mes dessins, ils évoluent de manière parfois anecdotique. En l'occurrence, là, j'étais en Hollande avec Marthe. Et elle a rencontré un Japonais qui fabriquait des tampons. Elle m'a dit va le voir. Donc je suis allé pour. Je suis allé le voir et donc lui il propose de faire des tampons personnalisés pour les gens. Donc il te reçoit dans un petit bar et il a tout un questionnaire sur la vie, le sens de la vie, tes passions, je ne sais plus quoi encore, ton travail. Et puis pendant ce temps-là, il pose les questions et puis il dessine.
Ton futur tampon.
Voilà. Donc là, il a commencé par un rond et puis pendant toute la discussion, il a tourné autour du rond et puis
il s'est arrêté là.
Il n'arrivait pas à dessiner autre chose. Donc,
c'est plutôt pas mal,
oui. Et à la fin, il m'a dit, mais quand même, il faut que je te dise, j'ai jamais fait un tampon aussi simple. Mais il n'y a pas d'autre possibilité. Voilà, c'est l'essentiel.
C'est toi.
Voilà.
Pour lui, c'est toi.
Pour lui, c'est moi, et c'est quelque chose qui va toujours à l'essentiel. C'est ce qu'il m'a dit. Du coup. J'ai pris ce tampon, je l'ai reçu, et puis évidemment, je l'essaye, donc j'ai fouillé dans mes tiroirs, puis j'ai pris les encres, il y avait le rouge qui marchait, pof, j'ai mis sur la feuille, j'ai commencé à dessiner, et puis
une série de dessins, un tampon rouge.
Un tampon rouge,
pour cette raison-là. D'accord.
Donc, mais j'aime bien ce tampon.
Donc c'est un tampon rouge, mais au milieu, il est un vide.
Oui, il y a un vide. Ouais.
Quand même.
Ouais. L'échapper.
Et ce vide, il te l'a expliqué. Tu parles beaucoup du vide dans ton livre.
Je parle beaucoup du vide parce que le vide, c'est l'espace qui nous permet de vivre.
C'est échapper, justement, aussi.
Ben oui, parce que si on était tous collés, tous dans la même poussière comme... avant le bing-bong, ben on ne bougerait pas beaucoup. Enfin, il n'y a pas beaucoup de vie, en fait.
Donc je vous invite à aller regarder de près le tampon avec le petit vide blanc au milieu.
On ne le voit pas toujours, mais il existe.
Note 17. C'est plus facile de s'approcher du silence quand il y a une bougie. Le mouvement de la flamme consume la pensée mentale. Mais comment appelle-t-on la pensée du corps, des muscles, des nerfs? Cette pensée silencieuse qui vibre bien plus puissamment que le discours. C'est une question que tu poses. Et voilà, on est donc au milieu entouré par Rousseau. Et je me disais qu'on pourrait poser cette question à Rousseau. Quelle est cette pensée du corps, cette pensée mentale? Donc, j'ai pris avec moi deux livres. Le premier, justement, c'est celui de Rousseau qui s'appelle « Les rêveries du promeneur solitaire ». Il se trouve qu'il est justement là aussi, avec sa première promenade. Et moi, je m'arrête sur la cinquième promenade, qui est d'ailleurs celle que je préfère de loin de toutes les promenades qu'il a écrites. Tu m'as dit que tu connaissais peu ou très mal Rousseau. Mm-hmm. Pourtant, ce livre-là devrait te plaire.
Je lirai.
Donc, la cinquième promenade, c'est une rêverie qu'on dit quasi immobile de Jean-Jacques Rousseau. Il est sur l'île de Saint-Pierre, qui est une île au milieu du lac de Bienne. Il y fait un séjour de 2 mois. Il dit que c'est un bonheur court et intense, un séjour isolé où je m'étais enlacée de moi-même. Donc je vous lis un extrait. Donc c'est Rousseau, c'est plus Yann. Quand le soir approchait, je descendais des cimes de l'île et j'allais volontiers m'asseoir au bord du lac, sur la grève, dans quelque asile caché. Là, le bruit des vagues et l'agitation de l'eau fixant mes sens et chassant de mon âme toute autre agitation la plongeait dans une rêverie délicieuse où la nuit me surprenait souvent sans que je m'en fusse aperçu. Le flux et reflux de cette eau, son bruit continu mais renflé par intervalles, frappant sans relâche mon oreille et mes yeux, suppléait aux mouvements internes que la rêverie éteignait en moi et suffisait pour me faire sentir avec plaisir mon existence sans prendre la peine de penser. Je me disais que ça pouvait être un élément de réponse à ta question. Comment appelle-t-on la pensée du corps, cette pensée silencieuse? Peut-être que c'est justement le sentir, le sentiment de l'existence sans penser. Mm-hmm. Est-ce que quand tu es dans sous 600 kilos de verre ou étranglé plus ou moins par ce câble, ou encore transpercé par une flèche.
Est-ce que tu es
dans ce sentiment de l'existence sans penser?
Oui, ben, il vaut mieux.
Tu t'échappes quelque part? Est-ce que tu es dans une île pour filer la...
Non, mais je suis dans mon corps.
Tu es dans ton corps.
Je suis vraiment dans mon corps, spécialement dans Bain brisé, parce que finalement, la seule issue que j'ai pour sortir, c'est d'écouter mon corps, parce que je fais confiance à mon corps et je sais que le corps ne se laisse pas mourir par nature, c'est un corps de vie, donc c'est lui qui va trouver l'issue. Donc je suis que dans l'écoute et je suis le mouvement que mon corps décide pour sortir de là, parce que le corps il sait.
Donc tu es dans un état de conscience finalement très éveillé,
très aigu,
mais
très
qui passe énormément par les sensations.
Pas mental.
Par les sensations.
Ouais.
Par le sentir.
C'est le... En tout cas, par la pensée, il n'y a pas d'issue dans mes performances.
Note 21. Journal de blessure, la Fonderie Genève, 10 novembre 2011. Ma loge est dans un débarras éclairé au néon. Il s'allume avec un détecteur de mouvement. Je bouge si lentement que je reste dans le noir. Je n'ouvre pratiquement pas les yeux. Une peur de la confrontation avec le public ou la nécessité de me concentrer pour accepter le froid ambiant. La performance dure 1h15, 1h30. C'est la version la plus courte que j'ai faite de blessure. La version originale est de 4 heures. C'est une autre histoire. L'image du début est si forte qu'elle pourrait suffire à la pièce. Mon corps est en partie recouvert de plumes et ma flèche, dans mon flanc, dépasse sans que l'on imagine encore que la flèche perce mon flanc. La pureté, c'est la beauté au-delà de la beauté. Donc là, il y a encore une peur, mais en fait, une autre peur, qui est celle de la confrontation avec le public. On a parlé déjà un peu du public tout à l'heure. Est-ce que finalement, tu dis aussi que tu préfères parler de spectateur plutôt que de public, dans le sens où le public est une masse indistincte, tandis que le spectateur fait appel à une intimité, un individu qui peut, par sa propre perception, recevoir et partager ce que tu es en train de proposer.
Pour moi, comme je suis souvent, c'est le même espace, je suis souvent très près, donc j'ai un rapport au spectateur très individuel. Je regarde le spectateur, je suis avec lui. Si je tourne la tête, à chaque fois que je tourne la tête, je suis avec quelqu'un. C'est pas du tout pareil quand on est dans un théâtre, dans une salle noire. Là, c'est le public. Mais c'est arrivé de certaines performances où il y a vraiment beaucoup de monde. Alors là, c'est une chose, mais la plupart du temps, c'est individuel.
Et là, quand tu écris « Je n'ouvre pratiquement pas les yeux, une peur de la confrontation avec le public » ou « La nécessité de me concentrer pour accepter le froid ambiant », je rebondis sur ce froid, en fait, qu'on retrouve assez fréquemment dans tes notes, finalement. Les gens, tu es nu et les gens font en sorte que tu es froid. Ou qu'est-ce qui se passe dans les théâtres si mal qui fait que tu as toujours froid ?
Justement, c'est que je suis rarement dans les théâtres, donc toujours dans des lieux... alors ici, il fait chaud, mais... souvent dans des lieux où il fait froid, où il n'y a pas de chauffage. Donc c'est une épreuve supplémentaire à déjà ce que je dois subir. Et c'est vrai que des fois, ça demande énormément de concentration s'il fait froid, en plus. Donc c'est vrai que cette année, j'ai fait beaucoup de performances dans des endroits où il faisait très froid. Alors... ça va, j'y arrive, mais c'est vrai que c'est quelque chose de supplémentaire à travailler.
À gérer, à votre place.
À gérer, oui.
Note 41. Le spectateur doit se faire sa place. Je ne lui donne pas une place attitrée. Il doit se définir lui-même, prendre position, ou se définir comme un acteur passif ou actif. Ou comme un être humain, redevenir lui-même. Je m'efforce de donner de la place. Il doit prendre sa place. Pas de chaise, instrument de torture lié à la pensée. La chaise tue le corps. Nous sommes donc tous morts ce soir.
Oui, moi je trouve ça terrible les chaises, mais bon.
Donc en fait, on est dans des dispositifs où le public circule, hein, peut s'approcher de toi, s'éloigner, s'asseoir, rentrer, sortir aussi.
Tout à fait.
Enfin, le spectateur, là, tu parles bien du spectateur. Note 32. Quand je pense performance, je pense d'abord poésie. Ensuite viennent les possibilités du corps. Donc là, on est. Ton livre s'intitule, je le rappelle, Note d'inemploi de la performance. Derrière, il est écrit « Yann Marousiche est performeur. C'est un des rares performeurs en Europe qui vit de son métier. C'est un métier. Pour lui, c'est le métier de vivre. Pour vivre, il performe, il écrit, il dessine, il voyage dans le monde et à l'intérieur de lui. C'est un tout indissociable. » Donc une indissociabilité entre ta vie, finalement, et l'acte ou la performance que tu pratiques occasionnellement. Pour toi, c'est la même chose. Vivre. Et performer, pour toi, c'est un peu pareil.
Oui, sauf que la performance, c'est une exacerbation de la vie. Donc c'est une concentration extrême de symbolique, je dirais, comme ça.
Et là, tu utilises le terme... inemploi, note d'inemploi plutôt qu'emploi.
Mais parce que c'est pas un mode d'emploi.
Hein. Ouais. D'ailleurs, dans la note 29, tu écris « Ne comptez pas sur moi pour des explications définitives sur quoi que ce soit. L'explication fausse, l'explication. Tout à l'heure, j'ai dit que ce livre a été fait suite aux rencontres improbables. On est souvent avec la performance dans des termes, dans une terminologie qui fonctionne par la négative, dans des anti-catégories. La performance, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas de la danse, ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas de la vidéo, ce n'est pas de la musique, ce n'est rien de tout ça. C'est une définition qui nous échappe aussi. Et toi, tu dis quelque chose que j'aime beaucoup à la note 60. Tu dis la performance est un chemin intime.
Tu dis moi, aussi... j'aime bien les performeurs où je sens une intimité, où je sens que c'est indissociable de leur vie, que c'est comme ça. Il n'y a pas de question. Quand je sens qu'il n'y a pas de question, quand je regarde quelque chose, il y a quelque chose qui est gagné. Mais dès que je commence à me poser des questions, j'arrive plus à regarder. J'arrive plus à croire.
Tu dis aussi à la note 27 que la performance est un poème physique. Rudolf Laban disait que la danse est un poème de l'effort. Finalement, on n'est pas si loin dans ces performances.
Je suis pas dans l'effort.
Non.
Je suis pas dans l'effort.
Tu es pas dans l'effort.
Non. Mm-hmm. Je suis plutôt dans exactement le contraire, c'est le lâcher prise.
Mm-hmm. Je t'embête un peu. Note 48. C'est bientôt fini, Noël. C'est un extrait. Non, je vais directement alors aller à... ici sur. Pardon, excusez-moi.
La Mimé note. La fin.
Ouais. Note 88, PTR Usine Genève, 23 mars 2012. Naissance diffausse, une belle suspension avec 20 fils de nylon. Une torture contemporaine. Je pense qu'au bout de quelques heures, la peau s'ouvre. Et le travail de la gravité commence, le découpage progressif du corps. Je peux le pressentir pendant le temps de la performance. La performance ne dure qu'une heure. Je ne veux pas risquer la section de la peau. Une heure de multiples extases, de multiples douleurs, de multiples chemins de sortie. Cette heure s'est inscrite dans mon corps sans vraiment savoir où. Je garde des marques visibles comme des coups de fouet. Donc ces marques, on en a parlé tout à l'heure, ces écorchures, ces coupures, ce sont... finalement des stigmates que tu...
Qui disparaissent le lendemain. Hein,
mais... Qui disparaissent le lendemain.
Mais qui sont là, qui sont bien là juste après.
Qui sont bien là juste après. Et qui représentent quoi pour toi quand tu les vois le lendemain? Un souvenir, une réminiscence?
Je sais pas, c'est presque abstrait. C'est, je dis, tiens, c'est... Ouais, c'est... C'est comme la peau, elle est très, très élastique, donc les marques, elles apparaissent, elles disparaissent, mais c'est comme un mouvement, voilà, ça apparaît, ça disparaît, c'est fini. Mais j'ai pas de marque définitive de mes performances.
Note 85, remerciement tout particulier à Henri Michaud, pour son incomparable précision à nous faire entrer dans l'espace du dedans et à y rester. Donc ce livre, tu m'en as parlé, c'est une référence pour toi, une...
Ça a été très longtemps un livre de chevet. Enfin, Henri Michaud en règle générale.
Ouais. Et ça l'est encore.
Ben là, ça s'est calmé un peu, mais pendant plusieurs années... en phase de digestion.
On retrouve effectivement beaucoup de ce que tu dis ici dans cet ouvrage-là.
Mais parce qu'il c'est vrai qu'il a exploré le monde du dedans d'une telle manière, d'une telle précision, d'une telle obstination. Il a passé sa vie à ça. Moi, j'admire sa manière d'avoir pu mettre des mots à ce qu'il a vécu à l'intérieur.
Je te demanderai de lire la dernière note, retenu, qui est un poème, parce qu'il y a beaucoup de poèmes, et voilà, je préfère que ça soit toi qui les lis, c'est quelque chose de plus difficile.
Voilà. Donc il y a pas mal de choses sur Bain brisé, parce que c'est la période où j'ai écrit Bain brisé, donc toutes mes performances en général sont précédées de poèmes. C'est comme ça que je rentre dans mon travail et voilà. La simplicité. Prendre son bain de verre comme un enfant. Jouer avec la mort comme on joue au Lego. Voilà.
Donc si vous avez à votre tour des questions ou des choses à dire à Yann, on ne vous voit pas en réalité parce qu'on est très aveuglés par les projecteurs, mais faites-le, signalez-vous. Prenez la parole sans lever la main.
Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez me poser des questions après, en bas, tranquillement. Oui.
Non, je veux savoir pourquoi c'est presque obstination, je dirais, d'aller pas à l'extrême de la douleur et de la mort.
Je suis encore loin de l'extrême.
Tu es loin de l'extrême.
Ah, très loin, ouais.
Mais c'est toujours en relation avec...
Je pense que j'ai envie de découvrir les possibilités du corps. Pour moi, je ne le vois pas en termes d'extrême, mais d'expansion. Jusqu'où le corps peut aller, peut supporter, peut vivre, peut comprendre.
Peut supporter
aussi, mais de manière, mais pas de subir. Justement, c'est tout l'idée, c'est de ne pas subir, mais de traverser. Et jusqu'où le corps peut traverser, entre guillemets, les épreuves.
Mais c'est des épreuves extrêmement extrêmes. C'est des épreuves, je dirais, pas douloureuses, tu vas me dire que tu n'as pas mal, mais tu te mets en danger, voilà. Toujours.
Mais oui, mais c'est très relatif le danger. Franchement, j'ai eu très peu d'accidents pendant mes performances. En vélo, par contre, j'en ai eu beaucoup plus. Enfin, je veux dire, pour moi, le vélo est beaucoup plus dangereux que mes performances. La chose est que je cherche des situations, mais que je passe beaucoup de temps pour les maîtriser. Donc la probabilité d'accident est beaucoup plus réduite que si je prends mon vélo pour aller pour traverser la ville.
Là, tu
Parce
écris...
que je ne maîtrise pas tout.
Là, tu écris, si je peux me permettre, j'aime bien cette note. Je m'épile avant chaque performance pour rentrer dans l'image du cadavre. Et pour moi, c'est clair... Quelque part, tu es toujours un peu mort quand tu performes.
Ouais. Il y a quelque chose de se faire du mal, d'une certaine manière, même si tu arrives à ne pas te faire du mal.
Oui, mais non, alors je ne suis pas du tout dans... ça, c'est une question qu'on me pose beaucoup. C'est, mais finalement, c'est du masochisme.
D'une certaine manière, parfois oui.
Moi, je ne suis pas du tout là-dedans. En tout cas... Dans ma recherche, dans mon auto-analyse de ce que je fais, c'est plutôt en rapport avec la maîtrise.
Mais tu vois, par exemple, enfin, quand tu étais par terre avec ton truc ici, tu as oublié de dire qu'il y avait de l'huile par terre.
Oui.
Donc ça visse, non ? C'est déjà pas la même chose que quand tu es pensé. Et que... Le jour où j'étais là, je crois que c'est la première fois que tu l'avais fait, c'est ton fils qui était le premier à tourner.
Oui.
Bon, c'était extrêmement impressionnant.
C'était violent, moi, c'était violent, ouais.
Oui, c'est violent, exactement.
Mais on va tuer mon père.
tiens, lis ça.
Je lui ai donné l'occasion de tuer son père, tu vois. Déjà, avant l'adolescence.
Qu'est-ce que je lui dis ?
Celui qui voit la souffrance dans mes performances ne voit que ses propres souffrances. Je n'incarne pas le corps souffrant, mais un corps libéré de la souffrance et de la douleur.
Voilà. Voilà. Tout est là, si jamais. Nous pouvons répondre aux questions, même les questions les plus difficiles. Tout s'explique dans les notes d'inemploi que vous pouvez acheter au rez-de-chaussée, qui sont un mode d'emploi de la vie. Non, mais d'autres questions ?
Oui, moi je me demandais, vous mentionnez Michaud. Mais
Artaud,
vous l'avez lu.
Artaud, oui. Artaud, c'était mon dieu quand j'étais adolescent. Pendant adolescent, même jusqu'à 25 ans. Vraiment, Artaud, c'était une figure. Artaud, Cantor, c'était vraiment des figures très importantes et très influentes
pour toi.
Dans mon travail.
Là, il y a justement un extrait de, bon, pour le coup, Michaud et non pas Artaud. Encore des changements. À force de souffrir, je perdis les limites de mon corps et me démesurais irrésistiblement.
C'est magnifique.
Enfin, bon, c'est pas... On va nous dire qu'on fait l'apologie de la souffrance, mais
non.
C'est pas ça.
Tout à l'heure, vous avez dit qu'une œuvre qui posait question, quand vous étiez spectateur, vous intéressait peu ou pas même.
Non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. C'est se poser des questions et quand je regarde quelque chose, ça peut me poser des questions. Mais si je commence à dire ah non, mais ça va pas, ça va. C'est dans ce sens-là, plutôt. Après, si ça me fait penser à quelque chose, si ça me fait poser des questions plus intérieures, mais pas extérieures, ça, oui.
Merci, ça m'étonne.
Oui. Bon.
Alors juste... vous dire avant que tout le monde s'en aille que samedi 24 novembre, pardon, donc ce samedi
24 novembre,
samedi à 20h, il y a dans l'espace voisin, je crois, Confession du verre, donc une performance originale de Yann Maroussich, où il s'agit d'une réflexion sur la condition d'enfermement de l'homme moderne et de son chemin vers la libération.
C'est pas moi qui ai écrit ça.
Voilà.
Moi, j'ai rien écrit, alors on a écrit pour moi.
Donc, à 20h samedi, samedi qui vient, il faudrait peut-être réserver. Donc, c'est réservation at mrl.ch ou par téléphone, ou peut-être ce soir même, en fait. Il est possible de réserver.
Oui, on peut s'inscrire ce soir. Et puis, donc, effectivement, signaler que vous pouvez vous inscrire pour la newsletter. La lettre de la MRL, on l'appelle en français, parce que c'est beaucoup mieux dans un lieu francophone. Donc la lettre de la newsletter vous est envoyée sur demande pour vous informer de tout ce qui se passe ici. Je rappelle aussi que nous sommes dans la maison natale de Rousseau, puisque vous l'avez évoqué. Donc c'est vraiment dans le lieu même de la naissance de Rousseau que cet espace Rousseau s'est créé et que nous avons donc le projet d'occuper toute la maison pour faire vraiment une maison de Rousseau de la littérature qui est des espaces plus vastes que ce qu'on aura pour vous recevoir samedi. Mais c'est un début. On est un petit peu comme ça dans l'improvisation avec la lumière, l'espace, mais c'est un début d'accueil et nous espérons que ça va se développer beaucoup dans les années à venir. Merci infiniment. Et puis, on peut continuer en bas, je crois.
Juste une précision par rapport à l'exposition des dessins. Les dessins de Yann Maroussich sont exposés ici jusqu'au 10 décembre. Voilà. Et puis, le spectacle du 24 a lieu ici aussi.
Et tu vas signer tes
livres. Merci.